Bonsoir à tous et bienvenue à l'écoute d'Alter Echo, l'émission garantie sans fièvre rafteuse ni football. Olivier au micro. Préliminaire d'usage, vous pouvez écouter Alter Echo tous les mercredis à 22h, rediffusion tous les vendredis à 14h. Et vous pouvez également retrouver l'émission sur le site internet www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Cette semaine, l'actualité est un peu molle, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, mais simplement que les grands sujets de ces jours-ci sont plutôt d'un consensualisme ronronnant, en tout cas à première vue. Excellente occasion pour une fois de vanter les mérites de la grande presse sur des sujets comme par exemple la fièvre rafteuse ou la nouvelle réglementation des transferts des joueurs de football. Je vous invite à lire Le Soir et La Libre Belgique, ils ont fait de leur mieux et je n'ai rien à ajouter. De mon côté, je vais vous parler aujourd'hui de la sortie du numéro 2-3 de Pour lire pas lu, le petit scorpion déguisé en journal de Pierre Carl. Mais surtout, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, la majeure partie de cette émission sera consacrée à l'uranium appauvri. La semaine dernière avait eu lieu à l'ULB une conférence qui réunissait autour de ce radio-sujet des gens de divers pays et de diverses disciplines, l'occasion de faire quelques interviews enrichissantes. Mais commençons par deux bonnes blagues que j'ai relevées dans la presse cette semaine. Tout d'abord en Belgique, les déboires de la commission Renouveau politique de la Chambre et du Sénat. Il y a quelques semaines déjà, elle tournait au ralenti et son président, le député SP Dirk van der Malen, avait envoyé une lettre à ses collègues pour les sommer d'y mettre un peu plus d'ardeur. Il menaçait d'ailleurs de cesser les débats s'il n'y avait pas au moins 15 parlementaires dans la salle. Lundi dernier, la commission a carrément touché le fond. Après 20 minutes, c'est un Dirk van der Malen furibar qui a annulé les débats du jour, faute de participants. Seuls 10 parlementaires avaient apparemment été attirés par le programme du jour, qui comportait des échanges sur la responsabilité ministérielle, les changements de parti en cours de mandat, mais aussi et surtout sur l'absentéisme parlementaire. Un débat sur l'absentéisme annulé faute de participants, il fallait le faire et ils l'ont fait. On serait tenté de parler là d'une histoire belge, mais les choses ne vont pas mieux au niveau européen. Je vous ai déjà parlé dans le cadre de cette émission du réseau mondial d'écoute Echelon, qui permet aux Américains d'intercepter des coups de téléphone, des fax et des emails dans le monde entier. Suite aux révélations sur ce réseau d'espionnage, le Parlement européen a mis sur pied une commission Echelon qui enquête sur le sujet et dont les travaux sont toujours en cours. C'est dans le cadre de cette commission que témoignait il y a un mois Desmond Perkins, le chef du bureau de cryptographie de la Commission européenne. Il était interrogé sur le système de cryptage qu'utilise la commission, principalement dans ses relations avec ses 129 bureaux à l'étranger. Lorsque la conversation s'est portée sur les bureaux de Washington et de Moscou, Desmond Perkins a fièrement expliqué qu'il entretient de très bons contacts avec la NSA, la National Security Agency américaine, précisément l'agence qui gère le réseau d'espionnage Echelon. Il a déclaré qu'il avait de bons amis à la NSA et qu'un de ses parents par alliance y avait longtemps travaillé. Les contacts sont même tellement bons que selon Perkins, la NSA vérifie régulièrement les systèmes européens pour voir s'ils sont bien verrouillés et bien utilisés. Il a même soumis un jour le système de cryptage européen à la NSA pour voir si les Américains parviendraient à le décoder. « J'ai été heureux d'entendre plus tard », a conclu Perkins avec candeur, « que les États-Unis avaient été incapables de décrypter notre trafic malgré 2 semaines d'efforts ». Cette dernière phrase se trouvait dans une note écrite de Perkins qui lui avait été demandée pour éclaircir les choses. Malgré cela, la Commission européenne a formellement démenti les propos de son chef des services cryptographiques en expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu et que Perkins s'était simplement mal exprimé. On comprend effectivement l'embarras de la Commission, mais on a du mal à croire à cette tentative de rattrapage, d'autant plus que La Libre Belgique a interrogé un spécialiste du cryptage de l'UCL qui s'est déclaré éberlué, mais seulement à moitié étonné. D'après lui, les GSM de la Commission ne sont pas sécurisés et la sécurité informatique est presque inexistante. Il arrive même à cet expert de recevoir de la Commission des enveloppes doublement scellées alors que le PC sur lequel la lettre a été tapée n'est pas sécurisé. Connaissant la curiosité maladive des Américains et leurs compétences en matière d'espionnage, on serait tenté de conseiller à la Commission européenne de faire des économies en supprimant carrément ses budgets consacrés au cryptage.
Miss Alzheimer mange de la cervelle, décide et s'envole de l'assiette. Tout ça est très joli, mais à monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Le sac à main dans le frigidaire, les bébés boivent du lait de toilette, la mise regarde des fautes vertes, trouve cet étranger à son goût. Oh, c'est qui cette belle dame? Mais voyons, c'est toi, mon amour. Ah bon, dit-elle, pas fixée du tout, elle est pas fière, Miss Alzheimer. Miss Alzheimer mange de la cervelle, des idées s'envolent de l'assiette. Tout ça est très joli, mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales. C'est pas de tout repos. Miss Alzheimer enfile son manteau, elle dit que c'est l'heure d'y aller, peut-être à la sortie de l'école, pour ses enfants de la quarantaine, ou bien acheter à manger. Il y a des beaux steaks chez le cordonnier, cuit avec un fer à repasser, c'est excellent et c'est vite fait. Miss Alzheimer mange de la cervelle, des idées s'envolent de l'assiette, tout ça est très joli. Monsieur son mari qui court après les pédales, c'est pas de tout repos. Miss Alzheimer la nuit se réveille, monsieur que faites-vous dans mon lit? Mais mon amour, je suis ton mari. Ça Miss Alzheimer le prend mal. Non mais dis donc, faut pas me la faire. Allez où ce gamin hors du lit? Alors le vieux gamin se relève, il pleure, il rit et il engueule. Miss Alzheimer mange de la cervelle, des idées s'envolent de l'assiette, tout ça est très joli. Mais il y a monsieur son mari qui court après les pédales, c'est pas du tout repos. Miss Alzheimer a mangé sa cervelle, monsieur a perdu son amour. Stop, y a plus personne. Lay, la 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 la.
Je vous ai déjà longuement parlé de Pour lire, pas lu, le petit journal assassin de Pierre Carles, ce journaliste qui a juré la perte du paysage médiatique français. Si vous ne le connaissez toujours pas, allez faire un tour sur le site d'Alter Echo, je me suis déjà suffisamment répété comme ça. Après un numéro 0 et un numéro 1, voici l'apparition du numéro 2 et 3 en un seul volume. Je ne vais pas vous le raconter en détail puisqu'il est désormais en vente à Bruxelles, soit au cinéma Nova, soit à l'association La Clé des Champs, dont vous trouverez les coordonnées également sur le site d'Alter Echo. Je vous rappelle l'adresse tout de même, www.multimania.com/alterecho en un mot. 60 francs le numéro ou 100 francs si vous vous le faites envoyer, ce n'est pas ruineux. Ce nouveau numéro de PLPL est consacré presque exclusivement aux grands patrons, qu'ils soient industriels ou patrons de presse, ce sont d'ailleurs souvent les mêmes. Il est question notamment de la rentrée littéraire des patrons qui sont très en verve ces derniers temps pour parler d'eux-mêmes et nous livrer les secrets de leur vie privée et de leurs brillantes pensées intimes. Qui dit bouquin dit critique littéraire et les journalistes lèche-bottes de la grande presse parisienne rivalisent évidemment de qualificatifs dithyrambiques pour encenser la prose des maîtres du monde. Le plus fort à ce jeu-là, c'est l'auteur Georges Semprin, qui tient une chronique littéraire dans le journal du dimanche. Dès qu'un individu en vue sort un bouquin, c'est le meilleur que Semprin ait jamais lu. Quelques citations. Sur un livre de Jean-Marie Colombani, patron du journal Le Monde, dans lequel Colombani lançait des fleurs à Semprin, le même Semprin écrivait « C'est ce que j'ai lu de plus pertinent, de plus percutant sur le sujet. Les idées sont les idées les plus novatrices, les plus justes et ajustées à la réalité. Un livre tonique et courageux. » En 1998, sur un livre d'Alain Minc, Semprin parlait de brio, d'une écriture à la fois brillante et pondérée, dense. Et il poursuivait, par la rigueur de ses analyses, la richesse d'une information parfaitement maîtrisée et l'audace réfléchie de ses propositions, ce livre constitue un apport indispensable d'Alain Minc au débat en cours. Moins d'un mois plus tard, c'est à propos d'un livre de Jean Daniel, le patron du Nouvel Observateur, que Semprin évoquait la densité, la richesse touffue ou concise des carnets de Jean Daniel, le directeur de l'hebdomadaire le plus intéressant, le plus accompli de la presse française. Et la part de Jean Daniel dans cette réussite est décisive. 3 mois plus tard, c'est Alain Duhamel qui passe à la cireuse, le livre qu'il faut au moment opportun. Un livre clair, précis, riche en analyses historiques et politiques, malgré sa simplicité fortement synthétique. Un livre didactique, une efficace pédagogie, pas de complaisance. Au suivant, encore quelques mois plus tard, c'est Daniel Schneiderman, journaliste au Monde, et sur la cinquième, je cite, « C'est un travail remarquable par la rigueur des analyses et l'objectivité de l'écriture. Un petit livre remarquable et qui vient bien à point de surcroît, un livre nécessaire au moment qu'il faut, souhaitons-lui autant de lecteurs qu'à la Bourdieuserie de Serge Halimi par exemple. » Hélas pour Schneiderman, le vœu de Semprin n'a pas été exaucé et aucun des livres qu'il a si brillamment chroniqué avec une verve et une objectivité à la fois riche et modeste, aucun de ces livres donc ne s'est vendu aussi bien que La Bourdieuserie de Serge Halimi par exemple. Encore une dernière pour la route, c'était sur un livre d'Éduy Plenel cette fois, le directeur de la rédaction du Monde. L'article était intitulé « À lire dans l'heure qui suit » et il se terminait par cette phrase « Depuis The Lion and the Unicorn de George Orwell, l'essentiel avait rarement été dit avec la concision, l'élégance et la rigueur d'Éduy Plenel ». Tout cela et bien plus à lire donc dans le nouveau numéro de Pour lire pas lu, disponible sur abonnement ou en vente au Cinéma Nova. Il vient au moment qu'il faut, il est indispensable et à lire dans l'heure qui suit.
Alfred trouve que sa vie est devenue trop ennuyeuse. L'inspecteur Iverson n'est plus l'enquête. Lui-même n'est pas bien dans sa vie. Il n'a plus rien à dire à sa femme. Jeffrey se console avec sa psychiatre. Edward se replie sur lui-même et souffre seul. Une artiste installe une sculpture en forme de répondeur. Sheila fait prendre un scotch qu'elle attend toujours son enfant. Marie pénètre dans le café d'une petite ville du Nebraska. Seul dans la pollue, la rivière Mosca. Elle mange de la guitare, porte un chapeau de cow-boy et organise des rodéos. Pendant ce temps, Hélène décide d'organiser une course de chevaux. Pour la bonne cause. Sarah est sous la prise de violent malaise. La situation reste toujours aussi tendue. Série noire. Un chauffeur de taxi vient d'être abattu. Jean est contraint de demander sa mutation. Julie, 18 ans, est dans le coma depuis un accident de mobylette. Trois femmes s'égarent en voiture. Trois Africains visitent Paris. Un couple de touristes bavarois se querelle. Un patron écossais félicite un de ses employés. Eric se transforme en chien malgré sa volonté. Christian perd une maîtrise. Monde est prêtre. Sébastien voit sa vie bouleversée par un coup de fil. Jessica se souvient de l'une de ses étudiantes les plus brillantes. Deux jeunes garçons trouvent 5 000 dollars, achètent une nouvelle moto. Une très grosse dame arrive dans un wagon du métro. Mathieu ne reconnaît plus personne. Alex a tout pour être heureux. Mike voudrait s'acheter une très jolie porte d'entrée. Un savant devient un justicier masqué. Une serveuse, une explosion de caravane, rien de profond. À découvrir absolument. À découvrir absolument. Pour adultes et adolescents. Absolument, pour adultes et adolescents, à découvrir.
Passons maintenant au gros dossier de cette émission, les méfaits de l'uranium appauvri. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, la coalition pour l'abolition des armes à l'uranium appauvri organisait la semaine dernière à l'ULB une grande conférence sur le sujet. Une bonne vingtaine d'intervenants étaient alignés sur l'estrade. Parmi eux, des soldats contaminés français, belges et anglais, une veuve de soldats espagnols, des physiciens belges, italiens et yougoslaves, des médecins irakiens, yougoslaves et bosniaques, des journalistes belges et une journaliste américaine, un parlementaire européen grec, et j'en passe. Tous ces gens se réunissaient à Bruxelles pour mettre sur pied la coalition, pour décider des actions à entreprendre et pour informer le public d'un sujet que les officiels n'aiment pas aborder. L'uranium appauvri, d'abord, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un métal extrêmement lourd et dense, très résistant, qui résulte en tant que déchet de l'enrichissement de l'uranium naturel, destiné soit à produire de l'énergie, soit à produire des cadavres en masse. Pour une vision plus scientifique et plus éclairée de la chose, je vous propose d'écouter Pierre Pierrard, professeur de biologie à l'Université de Mons. Il participait à la conférence de jeudi dernier et nous explique notamment les dégâts que peut faire l'uranium appauvri et aussi les raisons pour lesquelles on en met tellement partout.
Il y a des quantités énormes. Pour avoir, par exemple, dans un réacteur, une tonne d'uranium enrichi à 3,5%, vous créez près de 5 tonnes d'uranium appauvri. Si vous faites une tonne d'uranium enrichi à 90% pour les bombes, vous faites 220 tonnes d'uranium appauvri. Donc il y a un marché énorme, il y a 1 million de tonnes d'uranium dans le monde qu'on livre dans l'industrie civile et militaire. On fait des kits bateaux, on fait des contrepoids pour avions, on fait de l'équipement pour laboratoire, et puis alors il y a tous les perforateurs d'obus, de balles. Donc il y a un marché. Et ce qui est curieux, très curieux, c'est que les grands pays producteurs sont naturellement les pays qui ont des armes atomiques. Les États-Unis, la Russie, vraisemblablement, la France et l'Angleterre. Mais c'est ouvert. On offre au gouvernement belge acheter des obus. Le gouvernement belge dit oui ou dit non. Donc c'est ouvert, c'est très curieux parce que c'est une arme militairement extrêmement efficace. Il faut savoir qu'à 500 mètres, un tank qui tire avec un obus, eh bien, il traverse la tourelle d'un tank et il a encore suffisamment d'énergie cinétique que pour aller en détruire un second. C'est inouï. Les militaires tiennent à ça comme à la prunelle de leurs yeux. C'est foudroyant comme arme. L'uranium, c'est de l'uranium pur. Il arrive sur une paroi dure, il explose, il transforme en fines particules, il y a un peu un effet de poussière, si vous voulez, comme dans un poussière de mine. Hein. Toutes ces particules s'oxydent à une telle vitesse qu'elles s'enflamment, c'est pyrophorique, c'est une arme incendiaire en même temps. Et ces particules, donc un perforateur d'obus, peut avoir jusqu'à 70% de sa masse totale réduite à l'état de particules. Alors les particules qui ont 5 ou 10 microns sont arrêtées, mais les particules petites d'un micron, elles passent dans les fosses nasales, dans la trachée, et vont se loger dans les alvéoles pulmonaires, et là elles restent pendant des années. Naturellement, les chars américains et français ont des tourelles avec des plaques en uranium appauvri, qui est un métal très résistant aussi. Mais qui va augmenter quand, si jamais ils étaient... Parce que les Américains, pendant la guerre de l'Irak, se sont tirés l'un sur l'autre, tellement il y avait une densité de feu. Donc quand ils s'envoyaient de l'arme à uranium appauvri sur un blindage lui-même à uranium appauvri, qu'est-ce que ça devait faire comme pulvérisation, comme aérosol en uranium appauvri, hein, qui est donc un élément lourd, toxique chimiquement, surtout pour les reins, et deuxièmement, radiologique, et ce qui est terrible, c'est la radiation alpha. Si vous prenez un obus d'uranium appauvri dans vos mains pendant 10 minutes, un quart d'heure, le peu de radioactivité qu'il y a en gamma, c'est pas très grave. Et l'alpha, lui, il ne passe pas, puisque l'alpha est arrêté par la couche kératinisée de votre épiderme, donc vous êtes protégé. Mais c'est quand vous avez une fine particule d'un micron qui vient se loger dans votre poumon, insoluble, qui va rester là pendant des années et qui va émettre des rayons alpha sur un petit rayon de quelques cellules, mais qui va faire des destructions cellulaires terribles, rupture de chromosomes, rupture d'ADN, des groupes chimiques, des radicaux libres, très toxiques pour le fonctionnement de la cellule. Donc, avec beaucoup de chances d'avoir des carcinogénèses, donc des cancers. Il y a une différence totale entre le métal et la particule. D'ailleurs, dans l'armée américaine, il y avait des instructions qui étaient données, port du masque, toute une série de précautions, mais 9 fois sur 10, sur le champ de bataille, on n'a pas envie de mettre un masque, on ne prend pas les précautions. Et puis c'est surtout les hommes qui, pendant un mois, deux mois, ont dû nettoyer les chars, ou les chars détruits, ou les chars qui étaient couverts de poussière. On a vu au Kosovo, interroger tous les journalistes, moi j'ai interrogé tous les journalistes, ils ont vu les 15 chars serbes détruits, hein, par ces obus, et bien les gosses jouaient sur ces chars. On avait prévenu toutes les missions humanitaires d'installer des périmètres de protection, ne fût-ce qu'un rayon de 100 mètres autour des tanks, rien n'a été fait. Pour un stratège militaire, il y a des objectifs, et qu'on le veuille ou non, quand vous utilisez des armes, vous appliquez quand même un peu le principe de la fin justifie les moyens. C'est simple. Seulement, il y a une certaine proportion, il faut que les dégâts ne soient pas trop importants. Et je crois qu'on sous-estime les dégâts. Mais là, dans une stratégie militaire, on prend des risques, hein, on prend des risques avec toutes les armes. Toutes les armes, donc. Mais ici, par-dessus le marché, vous avez non seulement c'est une arme chimique, une arme radiologique, mais c'est une arme non discriminatoire, c'est-à-dire qu'elle touche, d'après moi, plus les civils que les militaires, parce que les militaires restent là un mois, deux mois, ce qui est d'ailleurs assez scandaleux, parce que des militaires américains qui sont restés 3 mois sur place, dans le désert, avec des aérosols à uranium. Hein. Donc le temps d'exposition joue. Mais pour les civils, le temps d'exposition, il va durer indéfiniment, les civils qui habitent dans la région. Peut-être que les doses seront plus faibles, mais que le temps d'exposition va être tellement plus long que si vous faites le quotient, c'est eux qui vont encaisser plus que les militaires. Et puis alors, c'est une arme, une pollution qui dégrade complètement l'environnement, l'eau, l'air, le sol, la chaîne alimentaire. Et puis alors... Le dernier facteur, c'est le fait que les scientifiques n'ont pas un consensus absolu, les fourchettes de risque sont très très larges, d'où application du principe de précaution, et qu'on ne vienne pas dire que le principe de précaution, c'est quelque chose d'inacceptable. Il y a des gens qui vous disent, écoutez, avec le principe de précaution, nous allons tout droit à des Waterloo économiques. Écoutez, il y a un minimum de conscience. Hein. Bon, vous avez les alarmistes et vous avez les gens qui foncent. Ben, il faut chercher le juste milieu.
Merci à Arnaud et à Nicolas pour l'interview. Voilà donc pour la partie théorique. L'uranium appauvri a été utilisé lors de la guerre du Golfe, puis en Bosnie et enfin en Serbie et au Kosovo en 1999. Parmi les soldats qui sont rentrés de ces zones de combat, beaucoup ont commencé à se plaindre après quelques mois ou quelques années de symptômes divers et parfois étranges. Rapidement, ils ont commencé à faire le lien avec tous les produits auxquels ils avaient été exposés, surtout lors de la guerre du Golfe. Polyvaccination, alerte chimique, uranium appauvri, tous ces facteurs peuvent expliquer, de façon isolée ou combinée, les symptômes décrits. Cependant, les autorités militaires ne reconnaissent toujours pas la dangerosité de ces expositions. Elles refusent d'ailleurs officiellement de reconnaître l'existence de ce syndrome du Golfe. Un ancien médecin militaire anglais qui avait servi dans le Golfe m'a expliqué que tous ses copains de l'époque sont soit morts, soit malades, soit sont devenus fous à cause d'un syndrome qui n'existe pas. Par contre, il a vu l'acte de décès de l'un de ceux qui sont décédés. Ce document officiel mentionnait comme cause de décès syndrome du Golfe, une cause de décès qui officiellement n'existe pas pour un cadavre qui est lui irréfutable et sur lequel on a bel et bien constaté une forte exposition à l'uranium appauvri. Au moins, les autorités militaires ont fini par admettre que leurs armées avaient utilisé des armes à l'uranium, chose qu'elles avaient commencé par nier. Cependant, là, l'évidence était trop forte. Hervé Desplats a lui aussi fait la guerre du Golfe. En tant que jeune engagé volontaire dans les armées françaises, il était responsable d'une batterie de missiles anti-aériens. Et après avoir passé des semaines au bord de la zone de bombardement, il est entré en Irak lors de l'offensive terrestre. Pendant toute cette campagne, il a vu plusieurs choses bizarres.
Non, moi j'ai vu pendant le conflit qu'il y avait des choses qui clochaient parce que j'ai assisté à la destruction d'un camp militaire français. On a enfoui toutes les tentes, groupes électrogènes, tout le matériel dans le sable, en tenue NBC nucléaire, biologique, chimique, avec un masque à gaz. Avec un peu de réflexion, on se dit qu'il se passe quelque chose. Pourquoi on va enfouir autant de matériel dans le sable? Ça coûte très cher. Donc ça, c'est un des premiers événements qui m'a fait penser qu'il y avait un problème. Et un autre, j'ai pris des cachets de pyridostigmine, des cachets pour lutter contre les ambiances chimiques. Quelques heures après avoir pris ce cachet, j'ai mes muscles de mon cou qui sont relâchés et ma tête qui a heurté le volant et je me suis trouvé très, très mal. Donc j'ai ce cachet contre les ambiances chimiques, moi je l'ai pas bien accepté. Et si on nous donne ces fameuses pilules pour résister, c'est qu'on s'est aussi trouvé en ambiance chimique, c'est qu'il se passait quelque chose et sur place on ne nous le disait pas pour pas nous inquiéter. À la suite de l'offensive, moi j'ai assisté à une explosion qui dégageait un nuage vert à 300 mètres de moi. J'ai demandé à la radio s'il y avait une alerte chimique. On m'a répondu que non. J'ai mis mon ANP, je suis resté sur place. Mon ANP, mon masque à gaz. Prends pas pour un con quand même. Un nuage vert pour moi c'est pas naturel. Donc j'avais, sur place, j'avais plus confiance aux autorités militaires. Et après, j'ai été dégoûté de ce que j'ai vu en Irak. Les frappes chirurgicales, j'en ai pas vu. Les milliers de Kurdes et d'Irakiens qui crevaient la dalle sur les routes, on les a laissés comme ça. J'ai vu des gens se battre pour des bonbons ou pour des boîtes de rations. Donc j'étais vraiment dégoûté de ce qui s'était passé pendant la guerre du Golfe. Et suite à mon retour, quand j'ai vu ce qui avait été marqué dans la presse, ça a fini de m'achever. Les gens n'avaient pas vu la même chose que moi. Quand je suis retourné en France, il me restait 3 mois d'armée à faire, je les ai faits, je suis parti. Et j'ai passé un an à vouloir rien foutre. Il faut dire les mots tels qu'ils sont. Je faisais des cauchemars toutes les nuits, je suis devenu agressif. Pour un oui, pour un non, je pétais les plombs. Et quelques temps plus tard, je suis tombé malade. Et le pneumologue qui m'a rencontré m'a dit « Ça fait 20 ans que j'ai pas vu un cas comme vous. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour arriver dans un état pareil ?»
Lui n'était pas encore au courant de ton passé.
Non, je ne lui avais pas dit, donc je lui ai annoncé que j'avais fait la guerre du Golfe. Il a de suite téléphoné à l'hôpital militaire. Il leur a demandé la conduite à tenir parce qu'il était étonné de mon cas. Il croyait que j'étais en phase terminale du sida. L'hôpital militaire a répondu qu'il fallait que j'entame. Parce qu'en France, il y a une juridiction spéciale pour les militaires qui sont malades. C'est un truc vraiment bien fermé, quoi.
La grande muette, quoi.
Voilà. Et on doit aller dans cette juridiction, on ne peut pas faire autrement, on doit les avertir de ce qui nous arrive. Mais moi, je ne savais pas, je n'étais pas procédurier, je ne connaissais pas la justice. En fait, je suis tombé dans le piège. Et le pneumologue a demandé des radios plus récentes que celles qui me détenaient dans l'hôpital, parce que quand j'étais plus petit, j'avais eu une appendicite et donc j'avais eu des radios lors de mon séjour à l'hôpital, donc il en fallait des plus récentes. Le service de santé des armées de mon régiment lui a répondu noir sur blanc par courrier que mes radios pulmonaires avaient été brûlées. Donc ça commençait mal pour pouvoir trouver quelque chose. Donc à la suite, l'étonnement de mon pneumologue, moi sachant ce que j'avais vu, sur mon lit d'hôpital, je savais très bien d'où ça venait. Donc il était hors de question que je laisse tomber ça. Dès que je suis sorti, j'ai porté plainte. Mais pareil, dans une juridiction militaire. Parce qu'en France, on ne vous informe pas vraiment. Et je suis passé dans cette commission de réforme. La commission de réforme s'est jugée inapte à statuer. Parce que ce que je racontais, ça l'a dépassé largement. les délais légaux d'origine étant dépassés, je ne pouvais pas apporter de preuves de ce que je disais, donc j'ai été débouté. Il a fallu que je porte plainte auprès d'un tribunal des pensions. Et moi, ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais faire une plainte en pénal. Si on me l'avait dit bien avant, si j'avais eu un vrai avocat depuis le départ sur cette affaire, j'aurais fait une plainte en pénal. Donc j'ai raconté mon histoire à mon avocate. C'était une avocate commis d'office parce que j'avais pas de thune, bien sûr. Et elle m'a dit on va pas attaquer là-dessus. Et elle a attaqué sur des chiffres qui étaient totalement faux de l'OMS. Et moi, je suis passé devant le tribunal, je suis venu. Et je me suis mis à parler lors de l'audience. Et j'ai parlé de problèmes chimiques, de tous ces problèmes de la guerre du Golfe. Et j'ai vu la responsable du ministre commencer à s'énerver, à monter sur ses grands chevaux, me traiter d'affabulateur en pleine séance. Et donc j'ai quand même fini par gagner une expertise. J'ai gagné une expertise et l'expert, le premier expert que j'ai vu, dit oui, il prend le dossier avec des pincettes, il dit oui, c'est possible que M. Desplein, sa maladie soit liée à la guerre du Golfe, mais c'est pas certain. À partir du moment que c'est pas certain, en justice, vous êtes débouté. Ce que je constate, c'est que j'ai été vacciné en partant dans le Golfe. J'ai pris un sacré vaccin. Je ne sais pas, à l'heure actuelle en France, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'il y avait dans ces vaccins. J'ai vu un nuage vert, une fumée verte. J'ai pris des cachets. Ces cachets m'ont. J'ai eu un problème, j'ai eu une réaction. Dû à ses cachets. Et pendant l'offensive, moi je me suis trouvé sur une position, je ne suis pas un scientifique, moi je constate, je me suis trouvé sur une position qui avait été bombardée à l'uranium appauvri, et ce jour-là, il y avait un banc de sable. Et ça, on est formel, pendant l'offensive, les 4 jours de l'offensive, ce banc de sable a retardé l'offensive, à cause de visibilité. Et ce jour-là, j'ai certainement respiré des particules d'uranium. Le haut commandement de la division d'Aguet, le haut commandement en France, était au courant. Pour ce qui est des officiers sur le terrain, je ne sais pas s'ils savaient, mais ils doutaient de quelque chose. Ils doutaient de quelque chose parce qu'il y avait des rumeurs. Des rumeurs, notamment sur des nouveaux types d'armement. Sur le terrain, moi, je me rappelle qu'on nous avait dit, c'était une rumeur, hein, que l'armée américaine utilisait des obus nucléaires, je dis bien nucléaires, à effet résiduel de 3 jours. Effectivement, c'était pas du nucléaire, c'était de l'uranium appauvri à effet résiduel de 4 milliards d'années. Ce qui n'est pas la même chose. C'est tout. C'est tout. Je sais que par rapport au syndrome du Golfe, 60 maladies ont été recensées. Ça va du cancer au lymphome, perte de dents, insomnie, diarrhée chronique, malformation de bébé, perte de tonus musculaire, anomalie sanguine, et j'en passe.
Et en ce qui te concerne, qu'est-ce que ça a changé à ton état de santé avant et après le Golfe?
Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, avant le Golfe, j'étais quelqu'un d'hyper physique, hyper sportif. J'avais mon brevet d'alpiniste militaire, j'adorais le sport. Mais après l'armée, je suis incapable de faire 1 kilomètre maintenant. Donc moi, j'étais en bonne santé. Et maintenant... Je suis travailleur adulte handicapé, catégorie B, avec 60% de perte pulmonaire, 9 dents en moins, des plaques, des problèmes de peau au niveau du cuir chevelu, et des fois j'ai des plaques rouges qui apparaissent, même si effectivement sur moi ça se voit pas trop bien, parce que je suis une personne qui fait attention à moi, mais j'ai un poumon cramé quand même, c'est pas la cigarette qui me l'a cramé, quoi. Sur toutes les forces en présence dans le Golfe, il y avait 25 000 soldats. La division d'Aguet, ça contenait simplement 9 000 soldats. Sur les 25 000 ayant participé aux opérations dans le Golfe,
25 000, c'est l'international.
Voilà, tous les pays confondus, le blocus maritime, tout confondu. Je parle de la division d'Aguet, c'est ceux qui étaient sur le terrain qui ont attaqué l'Irak. 9 000 personnes. Sur ces 25 000, on sait qu'il en reste 3 000 à l'heure actuelle dans l'armée française. Le reste, on ne sait pas où c'est qu'ils sont passés. Dans mon association, on a recensé 230 personnes malades. On a été contacté par plus de 500 personnes. Une association dernièrement, la FNAM, Fédération Nationale des Anciens des Missions Extérieures, a recensé 200 malades du Golfe dans son association. Alors, comme c'est une association quand même très proche des militaires, très proche du gouvernement, ils ont attendu que nous on fasse péter le truc pour pouvoir parler. Parce qu'ils sont un peu, s'ils veulent obtenir des subventions ou je sais pas quoi, sont un peu cernés. Bon, en France, à l'heure actuelle, ça en fait 400. Et on sait qu'il y a une autre association qui est en train de se créer. Donc je pense qu'on va arriver d'ici quelques temps à un millier de personnes.
Environ, ça devrait faire donc 1000 personnes sur ces 9000. Donc.
Ouais, sur ces 9000, ouais. C'est une proportion. Et en sachant que certains ne veulent pas parler, parce qu'en France, et comme dans d'autres, on ne veut pas salir l'image de l'armée. C'est quelque chose de sacré pour certains, pour des militaires, même s'ils sont malades, ils ne veulent pas salir l'image de l'armée. Et comme certains ont été pensionnés, ont été payés, ceux-là, on ne les aura jamais dans nos associations, ça c'est certain.
Et est-ce que donc, la France a encore envoyé des troupes, donc, entre autres dans ce qui s'est passé, les événements en Bosnie, puis en Yougoslavie et au Kosovo? Est-ce que dans ces soldats français-là, vous avez aussi eu des contacts de personnes qui subissent le même genre de problèmes dus sans doute également donc, à l'uranium appauvri?
Oui, on a eu des décès et des leucémies. On a lancé un questionnaire qui porte sur les pareil que la même chose qu'on a fait dans le Golfe, sur les activités militaires au Kosovo, en Bosnie, et sur les pathologies qui ont été déclarées. En fait, la manipulation des médias, on vient de dire, dans le Golfe, les journalistes traversaient le front en véhicule bâché. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas grand-chose, et ils voyaient que ce qu'on voulait leur montrer, ce que le service de presse des armées, le CIRPA, voulait leur montrer. Et nous, moi j'ai participé à une démonstration pour les journalistes, et des adhérents ont carrément fait des simulations de tirs que les gens ont pris pour des scènes de guerre, et en fait c'était rien du tout, quoi. C'était simplement... C'est pas ça la véritable information. D'ailleurs, ils ont essayé de faire des heures de direct pendant la guerre du Golfe. On sait qu'ils n'avaient rien à dire. Il n'y a que deux journalistes qui ont pu filmer la guerre du Golfe d'une manière différente. Et ça a été très chaud pour eux. Un Anglais qui a fait une cassette, qui a été interdite en France d'ailleurs. Très peu de gens. Il a fallu qu'ils se planquent. J'ai plus le nom, j'ai la cassette chez moi, le reportage est très intéressant, et effectivement on voit pas la même chose. Pendant la guerre du Golfe, les gens n'ont pas vu les horreurs, les corps, les gens complètement éclatés, les gens calcinés, les abris civils bombardés, les maisons civiles bombardées, personne n'a vu ça. En temps de guerre, les médias sont, faut dire ce qu'il est, sont bâillonnés. Il y a un système qui fait que ils n'ont pas accès à l'information. C'est très dur pour eux pour avoir accès à l'information. Et s'ils arrivent à faire sortir un truc, ça va être trois lignes quelque part. Il y a une espèce de culture des mots de l'armée. Par exemple, frappe chirurgicale. Normalement, on dit un avion sort et balance ses bombes sur la population. Là, on va dire frappe chirurgicale. C'est le mot, il fait tout. Ils ont une culture du langage qui fait passer les choses aux gens tranquillement.
Une interview réalisée par Timothée et Nicolas. J'avais d'ailleurs oublié de mentionner que Hervé Desplat est fondateur de l'association Avigolf qui regroupe les victimes du syndrome du Golfe en France. Parmi les symptômes relevés chez les vétérans français, notons encore 10 cas d'impuissance sexuelle et surtout, chose très étrange et inquiétante à souhait, 21 cas d'éjaculation qui brûle la peau de la partenaire du malade. Il ne faut pas s'étonner par conséquent si de nombreux vétérans, surtout américains, ont eu après la guerre des enfants souffrant de malformations. Comme les sous-titres passent très mal en radio, je ne diffuserai ici que les interviews en français. Je tiens néanmoins à vous parler de quelques témoignages livrés en anglais. Celui du docteur Al-Bayati, par exemple, un médecin irakien qui vit à Bruxelles. Normalement, c'est le docteur Hamash qui aurait dû venir d'Irak, mais manque de bol, il n'a pas pu obtenir de visa pour venir s'exprimer à Bruxelles. Le docteur Al-Bayati n'a pas vu énormément de cas lui-même, mais suffisamment tout de même pour s'inquiéter de la situation. Ainsi, il a travaillé dans le service de gynécologie et d'obstétrique d'un hôpital de Bagdad. Il s'y est occupé de nombreuses femmes qui venaient du sud du pays et il a vu des taux de fausses couches et de malformations anormalement élevés. Il a vu notamment un enfant né sans yeux, avec juste des paupières, qui est mort par la suite. Selon le docteur Al-Bayati, l'incidence de cas de cancer augmente chaque année en Irak, en particulier en ce qui concerne les leucémies et les lymphomes. Ainsi, il a connu le cas d'un malade atteint à la fois de deux types de leucémies différents, chose probablement inouïe en médecine. Pour quantifier tout cela, le docteur Al-Bayati affirme qu'on en est aujourd'hui à environ 12 fois le taux de cancer d'avant-guerre dans certaines parties de l'Irak, et ce sont surtout les enfants qui dégustent. En Bosnie aussi, on a connu plusieurs cas de cancer simultané. Ainsi, Zeljko Samadzic, qui était garde forestier en Bosnie et qui se trouvait à 50 mètres d'un impact de munitions à l'uranium, a eu une tumeur aux testicules et une au côlon, totalement indépendantes l'une de l'autre. Son médecin a vu trois cas similaires. Le même médecin cite le cas des équipes qui ont nettoyé les ruines de l'usine Zastava de Kragujevac, bombardée à l'uranium appauvri. 30 de ces nettoyeurs sont morts de mort subite, sans autre explication. La chatte du garde forestier a accouché d'un chaton à trois pattes. Ce ne sont là que quelques exemples. Des histoires comme ça, il y en a des centaines. En ce qui concerne les statistiques des cancers, rien que pour la partie serbe de Sarajevo, on est passé de 43 cas en 1995 à 248 cas en l'an 2000, soit un chiffre qui a plus que quintuplé en 5 ans. Pour résumer l'affaire, les chiffres sont absolument accablants, mais l'OTAN et les autorités militaires de ces différents pays membres nient toute relation entre ces maladies et leurs bombardements. Selon plusieurs intervenants à la conférence, il est probable que l'OTAN niera l'évidence jusqu'à l'absurde. En effet, reconnaître que ce sont les armes de l'OTAN qui ont causé d'innombrables cancers reviendrait à s'exposer à une faillite retentissante. Les conséquences se feraient sentir dans de nombreux domaines. D'une part, il faudrait remplacer tout l'arsenal contenant de l'uranium appauvri par des munitions similaires contenant du tungstène ou du wolfram, qui sont des métaux tout de même moins toxiques, premier coût très élevé. En outre, l'industrie nucléaire se verrait privée d'un débouché lucratif pour des déchets dont elle ne sait que faire. Deuxièmement, il faudrait faire face à de très nombreux procès en dédommagement de tous les soldats tombés malades après les guerres successives de l'OTAN. Quand on connaît les dédommagements astronomiques alloués souvent pour des broutilles aux États-Unis, on imagine que l'addition serait particulièrement salée. Mais aussi et surtout, il faudrait s'occuper des pays bombardés. Il est probable qu'un cancer ou qu'une vie perdue en Irak ou en Yougoslavie coûte beaucoup moins cher qu'un cancer ou qu'un mort américain. On serait naïf de s'en étonner. Mais le hic, c'est qu'il y en a beaucoup plus. Et puis enfin, la moindre des choses, ce serait de réparer les dégâts réparables, c'est-à-dire de décontaminer les zones bombardées là où c'est encore possible. À plusieurs endroits, la nappe phréatique est atteinte et c'est trop tard, mais il y en a d'autres où il faudrait évacuer des millions de tonnes de sable ou de terre et de nombreuses carcasses de blindés dont on ne saurait de toute façon pas quoi faire ensuite. Au total, comme le disait l'ancien médecin militaire anglais, il y a de quoi mettre en faillite tant les États-Unis que la Grande-Bretagne. Quelle que soit l'évidence de la nocivité de l'uranium appauvri, il ne faut donc pas s'attendre à quelque aveu que ce soit. Au Vietnam, les Américains n'ont d'ailleurs jamais explicitement admis la nocivité du fameux agent orange qui continue aujourd'hui de causer des difformités atroces chez les nouveau-nés. De toute façon, les aveux implicites ne manquent pas, eux. Si vraiment les militaires avaient la conscience tranquille, comment expliquer les nombreuses intimidations que subissent un bon nombre de ceux qui militent activement pour que la vérité soit connue ? En marge de la conférence, on pouvait apprendre que l'un a eu les quatre pneus de sa voiture crevés à quatre reprises, qu'un autre a reçu la visite des services de renseignement qui ont emmené son ordinateur pour vérifier ce qu'il contenait, qu'un autre encore a appris par un technicien qui venait le réparer que le disque dur de son ordinateur était régulièrement visité de l'extérieur. Là encore, impossible d'être exhaustif, mais l'intimidation est certainement un indice de choses pas nettes qui doivent rester cachées. Dans ces conditions, est-il possible d'obtenir des données scientifiques officielles rigoureuses et indépendantes sur la question ? La réponse est sans doute non. Les études scientifiques sont toujours commanditées et financées par des instances qui n'ont pas intérêt à ce que l'on trouve des preuves des effets secondaires de l'uranium appauvri. Même les institutions qui paraissent au-dessus de tout soupçon ont parfois des relations plus que troubles. Le week-end dernier, le quotidien De Morgen publiait à ce sujet un article sur le rapport final très attendu d'une mission de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les zones bombardées en 1999 en Serbie et au Kosovo. Un premier rapport intermédiaire annonçait déjà qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre uranium appauvri et incidence des cancers et qu'il n'y a donc pas lieu d'effectuer des tests spécifiques sur la population de ces zones. Par contre, ce même rapport intermédiaire s'intéresse à la santé des Kosovars et s'inquiète du grand nombre de morts dans les accidents de la route au Kosovo. L'article en question est signé Frédéric Laure, un spécialiste de la question, puisqu'il a signé avec Martin Messonnier et Roger Trilling un livre intitulé « Uranium appauvri, la guerre invisible ». Il nous explique pourquoi il ne faut pas attendre grand-chose des études de l'OMS et aussi quelle est la valeur scientifique du rapport qui sera bientôt publié.
Ouais, il n'a pas une grande valeur scientifique, tout simplement parce que, une fois encore, c'est un rapport qui ne tient pas compte des études, ou plutôt de l'unique étude faite par le professeur Durakovic sur des sujets vivants ayant inhalé ou ingéré de l'uranium appauvri. Ce rapport, il sera le fruit du travail de quatre experts restés au Kosovo 10 jours. Et qui n'ont pas effectué un travail scientifique rigoureux à mon sens. D'autre part, on sait, c'est ce que j'explique dans l'article, que l'OMS est, je serais presque tenté de dire, infiltrée par le lobby nucléaire, et ce de longue date, et qu'elle ne dispose pas d'une véritable autonomie, d'une véritable indépendance vis-à-vis notamment de l'Agence atomique internationale.
Infiltration est un grand mot, puisqu'apparemment ça s'est passé de façon consentie. Il s'agit en fait d'un traité, d'un accord entre l'OMS et une agence atomique. Vous pouvez nous donner les détails ?
Oui, c'est ça, c'est un accord qu'ils ont passé en 59 et qui est toujours d'application. Et c'est un accord au terme duquel il existe une obligation de commun accord entre l'Agence atomique internationale et l'OMS dans le domaine des rapports entre santé publique et radiation. Donc, on peut citer une clause de ce contrat qui les lie, dans lequel il est fait mention que chaque fois que l'une des parties se propose d'entreprendre un programme ou une activité dans un domaine qui présente ou peut présenter un intérêt pour l'autre partie, eh bien la première consulte la seconde en vue de régler la question d'un commun accord, est-il dit. Donc en clair, lorsque l'OMS veut traiter d'une question de santé publique, elle est obligée d'obtenir l'aval de l'AIEA, l'Agence atomique internationale, et elle ne l'obtient pratiquement jamais.
Et ça ne gêne pas les responsables de l'OMS ?
Quand on les interroge, comme nous l'avons fait à ce propos, ils se défendent d'être piégés en quelque sorte par l'AIEA. Ils considèrent que ce contrat ne remet pas en cause leur indépendance.
On voit aussi que ce n'est pas la seule occasion à laquelle des études scientifiques sérieuses sont empêchées. Il y a notamment aussi l'histoire du docteur Goffman, que vous citez également dans l'article.
Oui, donc en fait, le docteur John Goffman était le chef du groupe Plutonium, donc qui a permis d'isoler le premier milligramme de plutonium en 1942, qui a longuement travaillé sur les effets mutagènes de la radiation interne au corps humain et qui a été écarté notamment de l'AEC, qui est l'Atomic Energy Commission, qui est une agence civile, qui est la plus haute instance en la matière aux États-Unis. Et lui, comme d'autres autorités scientifiques d'ailleurs, eh bien, ont été écartés dès lors que leurs recherches ont démontré que l'exposition à la radiation faible provoquait notamment le cancer.
Donc en fait, simplement, ces résultats ne convenaient pas à ce que veut entendre le lobby atomique.
Oui, c'est ça, exactement. Disons que le rapport attendu de l'OMS, encore une fois, il faut être prudent, il faut voir ce qui va sortir de cela, mais sur base de ce qu'on en sait déjà, elle va s'inscrire dans une espèce de vaste entreprise historique de dénégation qui est propre à l'industrie nucléaire, oui.
Oui, vous dites aussi que l'accord entre l'OMS et l'AIEA était un mouvement concerté pour justement familiariser une nouvelle génération avec les bienfaits de l'énergie atomique, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'OMS, 2 ans avant ce contrat en 57, avait organisé une conférence internationale sur les effets de la radiation et sur la mutation génétique. Et ils étaient inspirés du prix Nobel américain Hermann Joseph Müller, donc qui avait fait d'importants travaux sur ces questions. Et là, ils avaient pour la première fois posé clairement le problème du rapport entre santé publique et exposition à la radiation. Et c'était la dernière fois, la première d'ailleurs, et la dernière fois que l'OMS a eu l'occasion de poser le problème de façon aussi ouverte, puisque 2 ans plus tard, ils signaient ce contrat, et que depuis lors, tous les travaux qu'ils ont menés sur des sujets intéressants directement ou indirectement l'industrie nucléaire, eh bien, ont été pour le moins édulcorés. C'est notamment le rapport qu'ils ont sorti après la catastrophe de Tchernobyl.
Ces jours-ci sort encore un autre rapport, commandé cette fois-ci par l'Union européenne, sur le même sujet. Et ce rapport, une fois de plus, affirme qu'il n'y a pas de lien entre les maladies, les syndromes, etc., et l'exposition à l'uranium appauvri. Ce rapport est d'ores et déjà contesté. Est-ce qu'il est vraiment impossible, finalement, d'arriver à un rapport scientifique indépendant sur un sujet aussi sensible?
Je pense qu'il faudrait pour ça aller trouver les personnes qui ont une véritable expertise en la matière. Je le répète une fois encore, parce que c'est le cœur du problème, la seule personne qui a mené une étude sur des sujets vivants exposés à de l'uranium appauvri, c'est le professeur Durakovitch. Mais personne ne veut entendre ce qu'il a à dire, personne ne veut s'intéresser aux résultats de ses recherches. Moi, je constate que le groupe d'experts qui vient de remettre son rapport à l'Union européenne. Enfin, je n'en ai, j'ai pas lu le rapport, je n'en ai lu que ce qu'en ont rapporté les agences de presse. Eh bien, une fois de plus, n'a pas effectué un travail d'analyse sur des sujets vivants, mais s'est penché sur la littérature scientifique dont on dispose. Bon, à partir de là, je pense que si on s'inscrit dans cette voie-là, ben, on va continuer à avoir des rapports qui seront contestés de part et d'autre.
Pour en venir à l'attitude de la presse, l'article dont on vient de parler a paru dans un journal flamand, alors que vous êtes un journaliste francophone, il a donc paru dans The Morgen. Pourquoi vous n'avez pas essayé de publier ces informations-là dans la presse francophone?
Bah, j'aurais pu me tourner essentiellement vers trois quotidiens, étant indépendant moi-même, qui ont se sont intéressés d'assez près à la problématique. Bon, l'un étant Le Soir, mais qui n'achète pas d'articles à des journalistes indépendants pour une raison qui peut se comprendre, c'est que ils ont un nombre pléthorique de journalistes et que bah, ils font avec leur personnel. Ensuite, il y a le journal Le Matin, mais qui lui-même connaît de grosses difficultés et est à la veille de sa liquidation, donc je ne me suis pas tourné vers eux, essentiellement pour cette raison-là. Et puis alors, il y a la Libre Belgique, mais je ne sens pas très chaude, pour le dire comme ça, sur ce sujet-là. Bon, je peux me tromper. J'ai pas de contact privilégié avec aucun journaliste en interne. Mais vu le ton qu'ils ont adopté jusqu'à aujourd'hui par rapport à cette problématique, je me disais qu'ils n'accueilleraient pas, sans doute pas, mais une fois encore, je peux me tromper, avec bienveillance, un article tel que celui que j'ai proposé à De Morgen, ayant là un contact avec un assez privilégié avec un journaliste.
Et les hebdomadaires, par exemple, le Vif L'Express?
Bah, les Vif L'Express, je ne les ai pas sollicités directement. La formule quotidienne me permettait de réagir plus rapidement. Je ne peux pas vous dire ici pour quelles raisons ils auraient accepté ou refusé un article. C'est vrai que je ne les ai pas sollicités.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine réticence dans une partie de la presse à aller au fond de ce sujet un peu délicat?
Ouais, écoutez, je pense que sinon on en a beaucoup parlé à un moment. Je pense que ça demande un gros travail d'investigation. Il y a quand même toute une série de journalistes maintenant qui se sont penchés sérieusement sur la question. Et il est vrai que pour arriver à se faire une opinion assez juste de la problématique, il faut y consacrer énormément de temps, il faut voir beaucoup de monde, il faut effectuer beaucoup de recherches, que beaucoup de journalistes, notamment de la presse écrite quotidienne, n'ont pas toujours le temps de le faire. Bon, et puis c'est vrai que d'autres ont plutôt tendance à relayer l'information venant de toute une série de lobbies, pour les appeler comme ça, notamment celui de l'industrie nucléaire.
Pas grand-chose à ajouter à cela, la grande presse manque effectivement de curiosité, ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. À noter que la conférence de jeudi dernier a tout de même attiré quelques journalistes, et notamment René Aquin du Soir. Le dossier qui a paru ensuite dans les colonnes du Soir n'est pas mauvais, mais tout de même un peu condescendant. Pour René Aquin, ce colloque était plus émotionnel que scientifique. S'il y avait effectivement un aspect émotionnel tout à fait assumé d'ailleurs, il me semble que le côté scientifique ne manquait pas, en tout cas dans les limites de l'absence de moyens attribués à la recherche scientifique indépendante. À lire le dossier du Soir lui-même, on retrouve d'ailleurs certains de ces aspects scientifiques qui ont un peu échappé à René Aquin, outre l'article principal. Il a rassemblé en résumé quelques témoignages individuels. À côté de celui de Hervé Desplat et du forestier bosniaque, on peut lire notamment le témoignage de Zoran Stanković, un pathologiste de Belgrade, qui résume une sorte d'expérience in vivo assez macabre, mais très intéressante. Il y a 5 ans, un faubourg serbe de Sarajevo avait été bombardé par les Alliés. Suite aux accords de Dayton, 5000 habitants de ce faubourg avaient ensuite été déplacés vers la ville de Bratunac, qui avait, elle, été épargnée par les bombardements. Aujourd'hui, 300 de ces 5000 habitants de la région de Sarajevo sont morts de cancer, alors que le taux de cancer dans la population d'origine de Bratunac est resté constant. Moi, cet argument me paraît plutôt scientifique, mais apparemment pour René Aquin, il relève plutôt de l'émotionnel. En bon journaliste du Soir, il attend probablement les résultats du rapport de l'OMS, qui ne risque pas, lui au moins, de faire dans l'excès d'émotion. Voilà, j'espère que cette émission ne vous a pas trop déprimé et que vous êtes encore capable de mesurer toute la gravité de la fièvre aphteuse ou de vos hémorroïdes. Pour ma part, je vous rappelle la rediffusion de vendredi à 14h, ainsi que le site internet de l'émission à l'adresse www.multimania.com/alterecho en un seul mot. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'Alterecho. Au revoir.